Disons, justement, si ça doit se limiter à une certaine raison qui plie assez vite aussi pour être seulement raisonnable, alors la tension même qu'il faut pour la patience disparaître, c'est-à-dire oui, pour être patient, il faut de la tension. C'est peut-être parce que moi je suis pas patient du tout, que ça vient juste possible, du coup, pas bon philosophe. Il faut, il me semble, au sein de la patience, qu'il y ait une impatience qui demande quand même toujours encore autre chose. Et alors je vais te citer la fin de la phénoménologie de l'esprit. Il n'y a pas l'ivresse, mais il y a de nouveau, d'abord, une proximité avec, je ne sais pas, Schelling, c'est Schiller, mais voilà, c'est tout ça, c'est presque, je dirais, la même bande, en tout cas, c'est un même climat, et qui a alors, pour le coup, et pas par hasard, justement, éprouvé le besoin de secouer quelque chose, oui, dans une certaine patience. Eh bien, la phénoménologie de l'esprit s'achève à la fin du chapitre de ce qu'on appelle savoir absolu, qui est peut-être le titre qui donne le lieu à la plus grande méprise. C'est-à-dire, on croit que Hegel dit, voilà, c'est le savoir absolu, c'est la fin. Hein, c'est l'absolu du savoir. C'est pas ça du tout. C'est le savoir absolu, c'est pas écrit pour lui-même, considéré pour lui-même. Mais ce savoir absolu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien d'autre, Hegel, que repasser par toutes ses propres étapes, et à la fin des fins, étant comparé à selon la grande métaphore christique qui accompagne toute la pensée de Hegel, étant passé par le calvaire, le trône, la gloire, le texte proprement hegelien s'interrompt pour céder la place à quelques vers de Schiller, que Hegel trafique un tout petit peu, et qui disent « De ce calice des esprits, écume jusqu'à lui-même, c'est-à-dire à l'esprit absolu, tout en son état de savoir absolu, de ce calice des esprits, écume jusqu'à lui sa propre infinité. » Dans ce « écume », tu vois ce que je veux dire. Il y a encore quelque chose du cortège machique de l'élan. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ces vers de Schiller, évidemment, je sais que moi, je leur porte un amour immodéré, parce que je trouve que ça renverse complètement une certaine façon qu'on a de lire Hegel, comme justement la pensée d'un achèvement, d'un bouclage, d'un accomplissement. Mais cet accomplissement, c'était dans ce débordement. Donc, voilà. Il y a encore ça à la fin. Mais cela dit, en même temps, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Quand tu t'es introduit que pas tous les philosophes, quelques-uns, alors tu as nommé Philippe et moi et toi, et puis bon.
Non, moi je suis pas philosophe.
Mais oui, enfin bon. Oui, mais est-ce qu'on va mesurer les philosophes? Mais je dirais que ça tient peut-être aussi au fait que nous voyons des philosophes essentiellement leurs œuvres, et que dans leurs œuvres, en effet, en dehors du banquet de Platon, de cette citation de Hegel et de Sylla chez Nietzsche, mais nous voyons très peu de choses de leur vie et de leur tension, je veux dire, de leur... Moi, j'ai tendance à voir, si j'ose dire, Descartes dans son poil, en train d'arriver au ego sum. Je ne dis pas du tout qu'il a bu, Descartes, mais il y a quand même quelque chose.
Oui,
hein.
Oui, c'est
quand,
sûr.
Quand il dit, j'avais ça, une extravagante supposition du sceptique qui aurait été branlé, mais ça a bu. D'autre part, quand on pense à quelques épisodes de la vie de Descartes, quand il s'est battu avec les bateliers sur le Rhin, quand il a fait un enfant à la fille, la coutardie pour lui, bah, il a peut-être à chaque fois un peu dur. Je ne pense pas que Spinoza buvait beaucoup, mais Malebranche, par exemple, Malebranche, il ne buvait pas, mais il chiquait abominablement, et il chiquait tellement qu'il était malade tous les matins. Ça venait vomir chaque matin. C'est une forme aussi. Alors évidemment, il y a rien qui... C'est les philosophes, ça, c'est...
Mais si Kant se piquait, mais non.
Oui, mais ouais, moi je dirais Kant, on pourrait dire que c'est tout le bonhomme Kant et par lui-même un tel excès permanent et constitutif, qu'il n'a même pas besoin de s'enivrer, il tient. Il est constamment dans une...
En exergue, Jean-Luc met la phrase de Baudelaire, enivrez-vous, mais de quoi devint de poésie ou de vertu à votre guise ? On peut plutôt dire que Kant était s'enivré de concepts. Enfin,
oui,
tout ça, c'est ce que je veux dire. Mais ce que je trouve, moi, la chose, hein, c'est-à-dire, c'est en travaillant sur les mots, comme Jean-Luc l'a fait dans ce livre-là, c'est-à-dire, évidemment, tout le monde y pense. Hein, pourquoi on dit haute-vie, pourquoi pour haute-vie on dit spiritueux, pourquoi les esprits sont là, etc. Brusquement, ce qu'il y a, c'est que. Si on enlève la l'ivresse du monde, si on enlève l'alcool du monde, si on enlève l'excès, il n'y a même plus de normes pensables. La philosophie, elle est tout entière, et c'est ce que je crois avoir compris dans ton livre, elle est tout entière dans cette tension. Après que par moment on puisse trouver qu'elle est un peu passive devant ce passage de Bacchus, etc., peut-être. Mais en effet, c'est que l'excès est la forme, on pourrait dire, spontanée de l'existence. C'est que l'existence, ça ne veut pas dire qu'on passe son temps à refouler ou à retenir, pas plus les philosophes que les autres, mais l'excès n'est pas... l'excès est la norme, d'une certaine manière. Il y a des choses qui sont là pour nous le rappeler, dont l'alcool. Et si on l'enlevait, ce serait beaucoup plus terrible que... le petit danger qu'il représente.
Je te fais remarquer que l'excès, tu dis c'est la norme de l'existence.
Oui.
Oui, parce que c'est pas par là que tous les deux commencent par le préfixe ex, et Heidegger qui n'est certainement pas un buveur ni un soudain, peut-être vous pouvez bien imaginer que jamais de sa vie Heidegger n'a été ivre. Très jeune, mais défalquer tous, bon, tout ce qu'on sait que faut défalquer, d'après moi, je dirais que dans la pensée de Heidegger quelque chose qu'on pourrait dire avoir été tout du long que le développement et l'exploitation, le creusement justement de ce ex. Sortir en quelque sorte de rien.
Et bataille.
Il y a une forme de l'ivresse à Heidegger. Mais même dans... Là, on pourrait chercher du côté aussi des écritures des philosophes. Il y a un certain... certains dérèglements systématiques du discours qui est peut-être nécessaire, qui appartient de manière nécessaire à cette tension dont on parle. Là j'en prendrai un autre qui lui non plus n'a peut-être jamais beaucoup lu, c'est Husserl, parce que on veut dire, la prose de Husserl est une des prose philosophique les plus impressionnantes par sa linéarité interminable. Mais ça l'est tellement que la volonté, le désir permanent de continuer l'analyse, de préciser, et dans une forme d'excès. Bon, peut-être vous voulez intervenir là-dessus avant qu'on passe à...
Et l'excès, bataille, non, ça rentre pas dans
ah
la
oui,
liste.
Ah oui, bataille, oui, bataille. Oui, oui, évidemment, français à bataille, oui, bien sûr. Bien sûr. Et bataille, il faut dire, c'est aussi celui qui a été, d'abord, le lecteur de Hegel le plus attentif à cette dimension de tension extrême et aussi d'inquiétude. Et Bataille, c'est celui qui a pris entièrement au sérieux un épisode de la vie de Hegel, petit épisode qui peut avoir parlé important, où Hegel a eu une sorte de sentiment de vertige, a pu penser devenir fou. Et Bataille, il reprend ça, c'est parce qu'il n'est pas devenu fou qu'il est retrouvé dans la clôture de son système. Bon, la bataille ne voit pas aussi ce que je crois que j'essayais de montrer en parlant de la fin de la polémologie. Mais bataille me fait penser à autre chose, si vous voulez. C'est que en même temps que l'ivresse puisse être un motif, disons, positif, et que l'ivresse et l'excès en général, c'est quand même aussi, surtout pour la philosophie, ou autour, disons, dans la culture en général, c'est quelque chose de moderne. Disons que, je sais pas, avant, bien sûr, on a Rabelais. Hein, et Rabelais, oui, d'ailleurs, il faut quand même penser, oui. Quand même, c'est vrai. Ben, d'ailleurs, j'ai cité aussi Rabelais, c'est vrai. Je ne peux pas tout à fait contourner le fait que là, à ce moment de basculement aussi très important dans la culture, hein, le passage justement du Moyen-Âge à la Renaissance, Rabelais fait l'éloge de l'ivresse. Au milieu de tout ce qu'on sait que c'était Rabelais, c'est-à-dire une volonté de renverser tout un ordre, culture, enseignement. Je pense qu'avec Rabelais, oui, commence quelque chose que certainement dans la littérature, alors pour le coup, on peut retrouver, parce que ça, on pourrait parler de ça aussi, c'est des occurrences de l'ivresse dans la littérature. Et alors là, j'ai fait ce qu'il y en a.
C'est qui sous la capote.
Et qui joue des rôles.
Il s'appelle déjà.
Des rôles importants. Et alors avec Bataille, on a un personnage qui lui, alors vraiment spécifiquement moderne, et qui justement n'est ni philosophe, ni tout à fait je dirais, littéraire ou écrivain, selon ça. C'est une image en tout cas, mais qui est franchement salut.
Oui, le problème, c'est que pour le livre avec le thème d'ivresse, on pourrait passer des heures et des heures, même sans boire. Non, il y a juste une chose qui me passe à l'esprit quand même avant qu'on. C'est le temps, hein, c'est pas parce que la dame m'a fait signe, hein, c'est pas moi qui dis.
C'est à l'autre lit.
Il y a une chose quand même que je tiens à signaler, bah, je m'en souviens à l'instant, c'est quand même le titre qu'Apollinaire donne à son recueil, Alcool, oui. Au pluriel. Il y a quand même un geste théorique, je dirais, comme souvent, de Philippe qui a insisté sur la qualité théorique au fond des interventions d'Apollinaire qui est complètement questionnée parce qu'on voit que le champ de la langue, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une précision épatante.
J'ai une très longue citation d'Apollinaire.
Voilà.
De même, il y a aussi.
Ah, il faut faire encore une photo. Il y a un long
passage de Malcolm Lowry, sous le président, qui est un livre très cher à Philippe et qui est un grand livre.
pas sûr.
Non, mais bah,
et
ça aussi, tu vois, par exemple, le phénomène de l'auteur, littéraire pour tout, c'est quelque sans doute aussi de l'artiste buveur, gravement buveur, ça c'est moderne.
C'est moderne, oui. Il y a beaucoup de figures comme ça, mais je pense qu'il y a eu des figures équivalentes dans le passé, peut-être pas des buveurs, au moins encore plus extraordinaires que Malcolm Lewis et Dylan Thomas. Alors je vais faire la transition comme ça. Dylan Thomas est mort après s'être enivré un soir de plus au White House Tavern, Hudson Street à New York. Et c'est un endroit où ça n'a pas changé après que Dylan Thomas est mort. Je vais essayer d'enivrer pour la dernière fois. Et c'est un endroit là assez beau, même sur ce débat. Transition. Et donc, j'en parle parce que pour moi, là, quand je suis allé à New York, c'était évident la première fois d'aller là et ainsi de suite. Et donc, disons, la passion de la ville, qui est le sujet de ce livre qui s'appelle La phrase urbaine, elle n'a pas besoin d'excitant comme ça, puisque c'est la ville elle-même, la rue elle-même, qui est l'excitant moderne, on pourrait dire aussi. Par excellence, mais quand même, à chaque fois, de trouver des motifs comme ça, tel lieu, White House Tavern, tel autre lieu, ça peut être à Dublin, ça peut être n'importe où, voilà, ça crée des points d'intensité par rapport auxquels une promenade peut s'inventer, se dérouler. Mais ce livre, je vais le présenter brièvement, puis après on discutera, ce n'est pas seulement un livre de promeneur, c'en est un, mais c'est aussi une réflexion sur l'état de la ville aujourd'hui, et en particulier deux choses. D'une part, la grande question d'aujourd'hui, qui est celle du développement urbain sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu autrefois. Depuis quelques années, c'est cité en référence, là, plus de 50% de l'humanité habite la ville ou la périphérie des villes, alors qu'auparavant, c'était toujours une majorité de rurale, voire une quasi-majorité, même plus qu'une majorité, c'était 80-90% au début du XXe siècle. Aujourd'hui, bon, on en est là, mais ça veut dire que la forme de la ville, évidemment, elle a changé considérablement, elle change chaque jour, elle change sous nos yeux. Et que par rapport à ça, il y a deux grands discours, un discours qui est pratiqué par dans certains milieux architecturaux, qui est le discours de l'émergence généralisée, c'est bien, c'est comme ça, on n'y peut rien, on y va, et un discours inverse, qui est le discours de la nostalgie et d'une espèce de cramponnement sur les centres-villes anciens, etc. Pour moi, ces deux discours sont erronés, et je pense que d'abord, le vrai de toute ville, il est d'abord toujours strictement local, qu'on ne peut pas dire des choses sur Barcelone qui vont automatiquement s'appliquer à telle autre ville, spécialement pas à Madrid d'ailleurs, et ainsi de suite. Et il n'y a pas une vérité des centres anciens, il y a la vérité, le vrai de tel coin de rue, etc. Et quantité de choses qui sont très mystérieuses, mais toujours, importe, disons, alors là, d'aller voir sur place, d'y être. C'est pour ça que la promenade n'est pas simplement un plaisir, c'est aussi pour moi le premier geste théorique qu'on a envers la ville, c'est de l'éprouver comme passant. Et puis, et donc cette forme urbaine évolutive, elle a généré comme problème, le problème qui est le problème majeur de la société française à mon avis aujourd'hui, plus encore que celui de l'emploi, et d'ailleurs il interfère complètement avec lui, c'est, disons, le problème de la banlieue, ou le problème des banlieues plus exactement, puisqu'elles sont aussi nombreuses et aussi diverses que le sont les villes, etc. Donc forcément, dans ce livre-là, je ne peux pas passer à côté de ça, je ne peux pas m'amuser à me promener uniquement dans le centre de Rome, et puis ne pas penser, ne pas évoquer la question de la banlieue, pour laquelle évidemment je n'élabore pas un catalogue de solutions, mais il se trouve que j'ai été mêlé à certains types d'activisme à ce sujet, et que donc il y a des textes, sans être militant, qui sont des textes qui interviennent sur cette question-là dans ce livre, puisque j'ai oublié de le dire, ce livre est un recueil de textes, avec des textes que j'ai éliminés, j'ai repris plusieurs fois certains d'entre eux, et là, ces textes s'étalent en fait sur une 30 ans, pas moins. Donc c'est une espèce de concentré de ce que j'ai pu vouloir dire sur la ville. Et puis l'autre grande problématique que j'essaie d'aborder, c'est une contradiction qui est récurrente, qui revient dans plusieurs textes, c'est une espèce de contradiction entre ce que j'appelle la parole de la ville, c'est-à-dire la ville, si c'est une phrase, hein, si c'est la phrase urbaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville, on peut la comparer au langage, c'est pour moi qu'il est inventé, mais on le fait et c'est très pratique, ça emmène dans beaucoup de... Il y a une grande facilité métaphorique de cela, et on peut dire que la ville, c'est un ensemble de phrases déjà écrites, et à chaque fois qu'un passant passe dans une ville ou se promène dans une ville, il lit cette phrase, et en même temps, il en crée une nouvelle. Et qu'une ville, c'est la somme de toutes les phrases énoncées, prononcées et prononçables. Pour moi, c'est ça. Mais aussi, une ville n'est pas que cela, elle n'est pas que cette parole vive, elle n'est pas que cette parole vive qui s'improvise, elle est aussi un discours qui se tient, et un discours politique, relayé d'ailleurs par la puissance du geste architectural. Et malheureusement, au lieu qu'il y ait une coïncidence et une harmonie entre la parole de la ville et le discours politique qu'on tient à son sujet et le discours architectonique, il y a souvent des écarts et des contradictions. Et les regarder travailler et essayer de voir comment elles pourraient être résolues, comment elles sont résolues à certains moments, c'est le sujet principal de ce livre. Voilà. Il est question d'ivresse, mais d'ivresse, disons, de la promenade, puisque c'est vrai que pour moi, c'est mon activité principale, pratiquement, c'est celle-là, de me promener jusqu'à épuisement et dans les villes, pas seulement dans les villes, mais enfin, principalement, voilà. Et puis... avant qu'on en discute de ce livre, puisque j'en doute pour préparer des questions, je crois que tu es travaillé pour rien. Eh bien, non, mais c'est vous blaguez, je dis ça, non. Mais, évidemment que ce livre, il est aussi en relation avec le travail que je fais depuis 16 ans maintenant, à l'école de la nature et du paysage de Blois, où j'enseigne l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la formation du paysage. Et donc, travail qui me plaît beaucoup, auquel je n'étais pas préparé, puisque moi je n'étais pas du tout universitaire ou dans l'enseignement. J'ai fait ça quand même. Donc on forme des étudiants à devenir ce qu'on appelle paysagiste. Voilà. Et au début, quand on dit ça, école, surtout qu'elle s'appelle de la nature et du paysage, les gens voient tout de suite des arbres et des fleurs. Or, ce n'est pas tellement à ça qu'on prépare les étudiants, même s'ils ont beaucoup de travail à faire, ce qu'on appelle la reconnaissance des végétaux, même s'ils sont supposés savoir comment on plante, ce qu'on plante, etc. L'essentiel de leur travail, c'est un travail qui est en prise sur les problèmes de la société actuelle. Donc disons que ça a beaucoup à voir avec les problèmes écologiques et avec les problèmes urbains et les problèmes politiques. Voilà. Et donc, dans cette école, j'ai été chargé de m'occuper de ces cahiers, et à chaque fois le numéro est orienté par un thème, et celui-là il s'appelle « Les cicatrices du paysage », donc les cicatrices qui peuvent être occasionnées aussi bien par un drame, disons, de nature écologique, ou un drame historique, voilà. Et pour la petite histoire, donc chaque numéro est organisé à partir de travaux d'étudiants, des travaux de fin d'études, comme on dit, qui paraissent particulièrement intéressants. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un des travaux de fin d'études qui est dans ce numéro, qui porte sur la poudrerie de Bergerac, qui est un endroit qui a beaucoup compté dans la vie de mon voisin, voilà, des hasards comme ça, des nouages qui sont amusants aussi. Voilà.
Oui, mais alors tu sais, je vais enchaîner tout de suite sur la poudrerie de Bergerac, qui est en effet l'endroit où j'ai passé toute mon adolescence, à Bergerac. Dans la poudrerie, c'est mon père. Et quand je vois le travail et la vie d'une étudiante qui a. Puisque cette poudrerie maintenant est pour trois quarts, je crois, des affectés, donc il y a une friche industrielle, et il y a tout un espace, non seulement la l'usine, le salon d'outils, mais l'espace autour dans lequel il y avait la wabité, les ouvriers, les ingénieurs, et un peu plus haut, les directeurs. C'était tout un ensemble qui était vraiment une petite ville. Il y avait le commerce, il y avait l'église,
quand je vois quelques photos de ça et les plans, les traces qu'on étudie dès que la peau d'un avenir, je pense que c'est très bien, c'est très très bien que les gens qui pensent ça. Et en même temps, je suis un peu terrorisé à l'idée que tout cet endroit qui était un endroit assez indécis entre ville et campagne. C'était quand même, bon, c'est pas une grande usine, mais c'est quand même une certaine importance. Puis la petite ville Bergerac, c'est une ville de 25 000 habitants, donc voilà, c'était. C'était vraiment partie de cet endroit. Et cet endroit, il était comme ce que tu dis quelquefois en parlant des passages dans certaines villes où la campagne se continuait. Moi, j'ai habité au bord de la ville, comme ça, et j'étais tout le temps fourré dans une ferme qui était à 5 minutes à pied. J'ai eu une enfance, au moins à moitié campagnarde. Là. J'ai l'impression, c'est-à-dire que quand on voit des petits schémas comme ça de projection, on a l'impression qu'on va forcément perdre.
Non, parce que c'est là précisément sur le rapport de campagne, c'est un des thèmes les plus travaillés actuellement dans les gens du paysage, parce qu'il y a des nouvelles citoyennetés, des extensions urbaines comme ça. Il y a des contacts entre ce qui était la campagne et ce qui devient ou n'est pas encore de la ville, enfin quelque chose de tout à des bâtiments. Il y a des heures comme ça. Un des principaux sujets d'intervention, c'est d'essayer justement de travailler à rendre ce contact non arbitraire en créant des chinages assez fins pour passer de l'un dans l'autre. Mais évidemment, ça ne peut plus être aujourd'hui avec la ferme où tu vas aller chercher le lait. Mais
j'allais pas chercher le lait, j'allais le traire.
Oui, encore mieux. Mais cela dit, même là, il y a des expériences de cette nature qui commencent à être menées avec des idées de couloirs agricoles qui pénètrent dans la perspective urbaine. Enfin, c'est tout ça qui est travaillé.
Comme tu racontes quelque part dans un des textes, que tu parles de quelqu'un que tu connais ou que tu as connu qui t'a parler de vache à Paris encore dans...
C'est mon je ne sais plus dans quoi je parle de ça, mais c'est mon plus vieil ami que j'ai connu au lycée en 62, en quatrième, et en effet, quand il était petit, la Boulogne-Billancourt, donc en face des usines Renault, avait encore une dame qui avait deux vaches dans sa cour, avec une petite prairie.
Mais si tu veux, de ça je ferai, mais c'est pas que je veuille en faire une question, c'est une incertitude et une inquiétude, j'avoue, que j'ai, c'est celle dont je parle là, qui est que quand tu dis qu'on se préoccupe beaucoup justement des rapports entre la ville et la campagne et que on pense à créer. J'ai bien employé ce mot, créer des passages, des communications. C'est justement ce créer qui me fait peur. Parce que je me dis que ce dont je parle, mais c'est pas ce que j'en parle, c'est pas. Et je pense pas être dans la nostalgie que tu écartais tout à l'heure, à juste titre, mais le mixte comme ça, urbain, campagnard dont je parle, il n'avait été pensé, conçu par personne. L'usine, elle avait été mise hors de la ville, parce qu'elle pouvait être dans la ville, voilà, elle était pas loin, pour que ce soit pas loin, bon, au bord du fleuve, parce qu'il y avait de l'eau, enfin, pas un fleuve, c'est une rivière, la Dordogne, mais et ensuite, tout s'était fait comme ça, quoi, ça restait relativement indécis. Quand on Est-ce qu'on peut, au fond, ce que je me demande toujours, c'est jusqu'où peut-on, parce que je ne dis pas évidemment qu'on ne peut pas non plus, mais jusqu'où peut-on créer de l'urbain au sens le plus
digne du mot. C'est une question absolument fondamentale, mais là, il y a une phrase que je cite à plusieurs reprises, je ne la cite pas dans le livre, mais je l'ai déjà citée ailleurs. Qui est une phrase formidable de Franz Hessel, le père de l'autre, qui est un écrivain à la différence de son fils, et qui était un ami de Benjamin, et il a écrit un livre qui s'appelle Promenade dans Berlin, c'est un livre qui est paru en 1927, et à propos des nouvelles constructions, donc des constructions nouvelles, donc de création, il dit cette chose, c'est une phrase formidable, il dit ces bâtiments n'ont pas encore été assez regardés pour devenir visibles. Voilà. Et si que veut, donc il y a toujours cette question de l'usage et presque de l'usure d'une certaine manière. Mais par exemple, justement avec les paysagistes en plus, ce ne sont pas des créateurs d'objets finis, puisque par définition, ils travaillent sur des espaces publics, mais quand même le végétal joue un rôle. Et entre ce que tu dessines et le moment où tu plantes et le devenir que ça crée, il y a forcément un phasage qui est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui inclut, si on peut, un temps d'appropriation ou un temps où on espère que les choses peuvent se fabriquer d'une certaine manière. Et quand récemment, par exemple, je me suis promené avec un ami que je considère comme un des meilleurs paysagistes français à l'heure actuelle, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, mais il est, disons, d'un bord, il est d'un certain bord, il n'est pas du bord des objets transcendants et luxueux. Il s'appelle Alexandre Chemetov, il a écrit des livres, et ses livres sont pour l'essentiel basés sur la notion de promenade. Il se promène dans un lieu, il analyse en se promenant. Et récemment, je me suis promené avec lui là où il travaille, c'est-à-dire dans banlieue parisienne, à Gentilly, Arcueil, Cachan, enfin cette banlieue sud de Paris. Premièrement, c'est assez formidable de se promener avec quelqu'un qui connaît absolument par cœur les lieux, et d'autre part, qui te montre ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait ne se voit pas. C'est-à-dire que ça a été avalé d'une certaine manière par l'espace et par les gens. Mais ça prend un certain temps. Et évidemment qu'on ne peut pas arriver comme ça à brusquement dire « je vais créer de l'urbain ». Mais on peut favoriser la venue de l'urbain. Et justement, dans le problème de la banlieue, ce qui est terrible, c'est la façon dont au fond, c'est peu travaillé, parce que ça demanderait, alors là, une patience, et ça demanderait un engagement politique considérable pour essayer de refabriquer des choses. N'y arrivant pas, on tombe toujours dans des opérations spectaculaires, par exemple la destruction des barres et des tours, etc., qui sont en elles-mêmes d'ailleurs extrêmement, extrêmement contestables. Enfin, mais je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais si tu veux...
La destruction,
oui, la destruction. La destruction. Les tours sont contestables, évidemment, mais la destruction aussi, la façon dont elle a été vécue. Là où il y a si peu d'histoire, le peu qu'il y a, tu l'enlèves. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se résout, et c'est comme ça que c'est vécu par les gens. Donc on pourrait imaginer que d'autres solutions auraient été prises. Mais cette création, cette histoire de la création de la ville, évidemment qu'elle ne n'est pas sui generis, encore que ce soit récurrent dans toute l'histoire de l'architecture. Quand les Grecs ouvraient ce qu'ils appelaient une colonie, ils amenaient leurs plans, etc., et ils faisaient le style international de l'époque, qui était en fait le style national grec, hein, voilà, et sans d'ailleurs, et après, bon, ça devient, ça s'acclimate, mais aujourd'hui, on est dans des unités, dans des échelles, je veux dire, qui sont tellement, tellement incroyables, que c'est très, très, tout est très difficile. Et quand tu dis ça s'est fait sans que ce soit voulu, mais il y a énormément de choses désastreuses qui se sont faites sans être voulues aussi.
Oui.
Et là, la question de l'intention, de la volonté, elle est très, 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 très complexe. Et par exemple, en tout cas, pour si on prend le cas de Bergerac, il y a une fatigue, il y a une usure, il y a des terrains qui deviennent complètement pollués, donc il y a un travail à faire. Et ce qui est proposé par les étudiants, nous on le publie parce qu'on pense que c'est valable. Par exemple, dans ce numéro, il y a un autre, là je connais mieux puisque j'étais, chacun des professeurs encadre, hein, on encadre 3 ou 4 étudiants par an, dans son diplôme, et là c'est un diplôme que j'ai encadré, c'est à Berlin. Et par exemple, donc c'était de traiter la question du mur. Donc le mur a pratiquement disparu, sauf à deux ou trois endroits où d'ailleurs ils sont en train de rogner parce qu'il y a des nouveaux phénomènes de circulation à Berlin qui risquent de mettre en péril un certain nombre d'équilibres entre la population et les autorités de la ville, qui étaient assez originaux, assez intéressants, enfin, bon, peu. Mais là, c'est la partie nord de Berlin, donc c'était d'ailleurs ce qui séparait le secteur français du secteur soviétique, la partie qui monte. Et là, alors là, justement, que faire? Le mur n'est plus là, mais il y a son emprise qui est là, qui continue de séparer. Elle sépare quoi? Doit-on complètement, la problématique que s'est posée l'étudiante, je trouve assez formidable qu'une jeune fille d'aujourd'hui qui n'a pas connu même l'époque du mur, etc., se pose ces questions, est-ce qu'on doit complètement effacer la chose? Alors, évidemment, la première idée, c'est d'en faire une promenade, parce qu'en effet, on peut la prendre, j'ai fait, c'est très agréable, tu pars du centre de Berlin, et au bout de 7 km à peu près, alors tu es dans la campagne, par un chemin qui était l'ancien chemin où il y avait malheureusement les repos, les miradors, tout ça a disparu, pas complètement, il y a des endroits où ça on le ressent un petit peu cette emprise. En même temps, comment faire que cette promenade ne soit pas séparatrice? Comment elle peut relier comme ça des choses? Avec des choses extrêmement surprenantes, où tu découvres que la cité d'HLM, enfin, ça ne s'appelle pas comme ça en Allemagne, mais la cité HLM un peu dure, elle est à l'ouest, et qu'en face, c'est un quartier, alors c'était le quartier un peu de la nomenclatura de l'Est, avec des avenues, des rues, avec des marronniers, etc. Comment travailler, comment tisser tout ça? J'ai trouvé son travail assez remarquable, mais parce que, justement, ça part toujours d'une analyse par millimètre, il ne faut pas exagérer, mais où l'ensemble des paramètres géographiques, politiques, historiques, sociaux, etc., sont pris en compte. Voilà. Et donc, pour revenir à mon livre, ce n'est pas le livre de monsieur le professeur, hein, c'est un livre que j'aurais écrit même si je n'enseignais pas dans cette école, alors, bien des textes sont antérieurs à mon passage dans cette école, mais disons que c'est ça aussi, c'est-à-dire d'essayer de prendre au sérieux la complexité de l'objet urbain. Voilà.
Oui, si tu veux, c'est pas pour t'opposer, c'est pour dire l'exemple que j'ai toujours ici à Strasbourg de problème que peut poser une intention louable, ces intentions dans l'enfer. Dans l'enfer est pavé, c'est qu'un jour on m'a expliqué qu'elle avait été l'idée, je crois, l'intention des architectes du musée d'art contemporain. Tu vois ?
Oui, d'accord.
Et parce que je te demandais comment elle se faisait que de la terrasse du musée, on voit les tours, là, les anciennes ponts ouverts, on voit la cathédrale, enfin, on voit tout le vieux Strasbourg, mais on tourne complètement le dos hein, au quartier qui est oui. Quartier de la gare, des boulevards de la gare. Et on m'a dit, non, mais ça, l'idée, c'est que justement, par le musée, se fasse un lien, un passage entre ces quartiers. Et que c'est pour ça qu'il y a aussi, il y a tout un espace pavé d'aller autour. Bon. Et après, on a l'ENA vient là dans le coin et tout. Bon. Depuis, ça fait combien d'années ça, c'est pas mal. Depuis, la communication ne se fait pas du tout.
Il faut transformer l'ENA en brasserie.
En plus, comment on a ah, mais ça, de toute façon, là, tu rejoins les mêmes problèmes. Mais ce qui est frappant, c'est que on prend le tram pour aller au musée, on arrive derrière le musée, la station de tram est derrière un petit peu, et puis il faut contourner tout l'arrière du musée pour y entrer. Et on ne peut pas faire mieux pour vraiment
sortir. Moi aussi, on aurait pu faire mieux.
Or, l'intention, mais on m'a dit, je ne sais plus qui m'a dit, et comme je ne dis personne, mais on m'a dit, non, mais l'idée, c'est vraiment de faire, d'établir un pont, un pavé.
Mais en tout cas, pour ce qui est de ça, bien que, évidemment, on ne peut qu'être très, très anxieux, très soucieux. Mais il faut dire que les choses quand même ont pas mal évolué depuis 10 ans à peu près, et que pas tant les grands objets architecturaux que un certain type d'aménagement, par exemple ce qui a été fait à Bordeaux, pour ceux qui connaissent Bordeaux sur les bords de la Garonne, ou ce qui a été fait à Lyon au bord du Rhône, etc., ce sont des interventions qui quand même d'une part reçoivent l'approbation de la population, qui créent des ou les tramways, qui créent des espèces d'agora mobiles comme ça, qui c'est quand même... c'est quand même des choses qui
je pense, vont dans le sens de cette création de l'urbain, d'un urbain bon, qui ne vient pas d'un seul coup, mais qui, etc.
En d'ailleurs, je dois dire que c'est l'impression dominante que fait ton livre, c'est que, d'abord, c'est que on sent que tu t'appuies beaucoup pour tout ce qui est positif, pour tout ce qui te soutient, disons, dans un espoir, tu t'appuies beaucoup justement sur les travaux les plus récents, sur un état d'esprit et sur des travaux vraiment très récents. On sent que toute cette attention aux détails, à la prise en compte de tout, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et dont d'une certaine façon, enfin, moi en tout cas, je n'ai même aucun exemple, je ne peux pas en donner. Par exemple, ce que tu montres là, le travail de cette étudiante sur l'espace du mur de Berlin, il fait penser à quelque chose d'analogue à Valence en Espagne. Il y avait un fleuve qui provoquait de telles inondations qu'il a fallu le canaliser. Donc un espace très très large, qui traverse toute la ville, qui a été asséché, qui est devenu une sorte de grand espace vert. Bon, et c'est très bien, c'est un espace dans lequel on peut très bien aller se promener. Mais un peu plus tard, il y a une série de décisions culturelles de la ville qui ont fait installer dans ce grand passage toute une série de bâtiments culturels, les uns plus lourds que les autres, et qui ont en quelque sorte qui sont bouchés cette étendue et cette aération que ça avait créée dans la ville. Bon, alors on sent bien donc qu'il y a quelque chose qui, disons, que tu épouses, je peux dire, une sorte de frémissement que tu partages sûrement avec tes étudiants. Bon, et ça, c'est très bien, je veux dire, c'est bon. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que par rapport à tous tes livres, enfin, tes textes sur la question, et puis peut-être même par rapport à tous tes textes en général, que c'était tout d'un coup un livre dans lequel tu es plus quand même inquiet que tu ne l'étais jamais apparu. Parce qu'il y a des moments où tu as des accents vraiment sombres, hein, sur ce qui est en train d'arriver à la ville.
Si c'était qu'à la ville.
Oui, non, mais c'est le sujet.
On irait à la campagne.
Oui, c'est... Non, mais si tu veux,
Oui.
Bon, par exemple, je pensais que par rapport à la description de l'homme, il faut dire que Jean-Christophe a écrit, il a beaucoup écrit sur la vie, il a écrit en particulier un livre très, très remarquable, très singulier, qui est la description d'une ville entièrement imaginaire, que lui a imaginée. Il donne le plan et donc il se promène. C'est un livre magnifique, très, très impressionnant par sa capacité d'invention, d'imagination. C'est une imagination qui ne fait en fait que rassembler tous les traits de la ville, telle que tu la penses, telle que tu la sens, telle que tu l'écoutes, comme tu dis, toujours locale. Bon. Mais en lisant la phrase urbaine, je me suis demandé si aujourd'hui tu pourrais écrire une description de l'homme.
Non, sûrement pas. Mais de toute façon, ce livre, La description de l'homme, c'était la création non pas d'une cité idéale, mais une cité plausible. Mais disons qu'un certain nombre de traits d'architecture, ou justement ce dont je parlais tout à l'heure, ces harmonies entre la parole improvisée de la ville et le discours que tiennent ces édiles, il se trouvait que c'était une ville un peu miraculée de ce point de vue, puisque moi, ça m'intéressait pas, mon caractère ne porte pas à décrire des choses catastrophiques. J'avais envie de créer cet objet. Mais c'est complètement différent. Là, c'est la ville d'aujourd'hui, la ville réelle. Et sans être nostalgique de rien, il y a bien des cas où on est consterné. On est consterné.
consterné par ce, on est consterné par ce qu'on voit, par la dégradation de toute une série d'espaces et ce qu'elle entraîne au niveau des relations des habitants. Et tout ne passe pas par des questions spatiales, des questions d'architecture, des questions de voirie, des questions urbaines, mais beaucoup plus qu'on ne le dit. Et justement, cela dit dans le livre, j'essaye à chaque fois de faire la contrepartie, justement, de voir où ça marche quand même un peu. Et donc c'est le thème même du livre, ça marche toujours un peu mieux, voire beaucoup mieux, dès lors qu'il y a la phrase urbaine, elle a un nom, c'est la rue. C'est-à-dire que quand même, on paye les pots cassés de ce que le mouvement moderne avait recommandé et qui a été appliqué, même pas selon les critères stylistiques du mouvement moderne, mais à la louche, partout, universellement, après la guerre, dans la reconstruction, c'est-à-dire de construire des villes sans rue, de construire donc quelque chose qui... je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a un chapitre qui s'appelle « Fin des dortoirs », où j'essaie d'analyser ça de façon, disons, objective, c'est-à-dire de comprendre aussi qu'il n'y avait pas de juger, « Oh là là, c'est des cages à lapins, c'est du béton, c'est lieu commun ». Ça a répondu à des besoins, ça a répondu à plus que des besoins, ça a été lié à une espèce de projection un peu utopiste, hygiéniste, etc., qu'on peut critiquer, mais qui existait, et qui a eu une espèce de grandeur, presque, à un moment donné. Mais ça a tourné à une véritable catastrophe. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et la banlieue de parisienne, la banlieue du quartier nord de Marseille, Lyon, à Strasbourg, partout, il y a ça. Et il y a ça en Angleterre, il y a ça dans les pays de l'Est, il y a ça dans les pays émergents. Quand on voit comment en Chine se construit la nouvelle Chine, les problèmes de banlieue des Chinois vont être à la mesure de la folie de construction actuelle. Ils ont déjà commencé d'ailleurs, même si on n'en parle pas. On voit ça dans des endroits qui n'ont aucune commune mesure culturelle avec nous, comme par exemple à Téhéran, etc. Il y a vraiment une panne, moi j'emploie le mot, une panne civilisationnelle du bâtiment pendant la deuxième moitié du XXe siècle.
Et qui passe le monde du bâtiment.
Et du bâtiment, non, comme quand le bâtiment va, etc. Donc c'est, le bâtiment est le symptôme, si tu veux, de la panne, on peut dire une panne du politique, une panne de la pensée politique, etc. Et il me semble que tout ce qui essaye de se faire d'intéressant et d'autre aujourd'hui, c'est ce qui analyse ça, essaye de comprendre ça. Et comprendre ça, ça ne veut pas dire jeter la pierre à Le Corbusier, encore que par moment, quand on voit le plan voisin, c'est le projet qu'il avait pour Paris, on tremble quand même, puisque même si c'était un projet un peu provocateur, il l'a quand même dessiné. C'était de tout démolir et de construire la cité parfaite en laissant en plus Notre-Dame et la Tour Eiffel quand même, deux, trois monuments, des monuments et du logement. Et toute la logique du zonage, qu'on appelle le zonage, c'est-à-dire les habitants ici, le travail là et les loisirs là, c'est une catastrophe. Et c'est ce que j'appelle dans le livre la fonction urbaine. La fonction urbaine, c'est quelque chose qui outrepasse telle ou telle fonction. La fonction travail, la fonction loisir, etc. C'est ce qui l'entremêle continuellement. Et quand on perd cet entremêlement, dont le moteur est la rue, dont le moteur est un tissu de guerre où on est libre de se promener et de se rencontrer, quand on perd ça, on perd la ville. Et ça a été la grande catastrophe. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que c'était bonheur garanti dans les courées qui avaient en effet des formes de rue au XIXe siècle, etc. Tout est très difficile et très compliqué. Mais disons, aujourd'hui, c'est devant cela qu'on est. Et en même temps, donc, c'est vrai que quand... C'est difficile parce que dans le livre, il y a un moment, il y a une promenade dans Rome, je raconte le moment formidable où on croit qu'on débouche dans un cul-de-sac, et puis c'est... L'architecte Pierre de Cortone, qui est très malin, il a fait un trompe-l'œil, puis en fait, caché comme des portes de l'église, on croit que c'est des portes de l'église, en fait, c'est des encadrements de ruelles, et paf, comme un chat dans une chatière, on file par là et on fait un raccourci dès qu'on connaît un peu le quartier, ou la logique à Lyon des Traboules, etc. C'est des choses absolument formidables. Mais et quand on dit ça, c'est vrai, on est dans un luxe urbain. Et le problème de ce genre de livre, notre problème à nous, c'est aussi que on est avec les deux, on est entre les deux. On ne peut pas jouer l'un contre l'autre aujourd'hui. Donc, en même temps, c'est pas une chose académique que de dire que dans un travail fait par Pietro di Cortona au début du 18, l'articulation 17e, 18e siècle, il y a peut-être des choses à retenir pour des choses aujourd'hui. C'est ce que j'essaye d'appeler dans le livre toute la logique de la coulisse, c'est-à-dire tout ce qui permet de passer, de circuler. Quoi. Et il y aurait tout un travail à faire sur le mot passant, quoi. Le passant. Nous sommes tous des passants. Avant d'être des habitants, on est des passants.
Je vais lire la page où tu décris la fonction urbaine, parce que je pense que c'est un peu le centre du livre. Et bien de le dire dans le texte. Ce que l'on peut voir et vérifier couramment, c'est que partout où zonage et compartimentation n'ont pas triomphé, une vie est maintenue. Cette vie, à la résistance mystérieuse, ce sont avant tout des accroches, de petits points de flux, de rassemblement, des points qui relient. Relier et assembler, et le faire de façon disparate, c'est là l'être même de ce qu'il faudrait appeler la fonction urbaine, une fonction qui est autonome et qui est supérieure à toutes les fonctions qu'elle brasse, une sorte d'hyperfonction complexe et unifiante qui attache noyaux et particules comme une attraction. Cette attraction, et tous les sens du mot sont ici employés, a presque le caractère du secret. Elle est comme un mot de passe que les habitants n'ont pas même besoin de se dire. Et ce mot de passe, enfin, ou ce secret qu'on n'a même pas besoin de se dire, dans un chapitre à part, tu le développes comme le propre.
Oui.
Comme l'idée du propre. Comme le sens propre d'un lieu, et dans ton chapitre sur les matériaux, très très, très, très beau chapitre, parler d'une quantité de matériaux de manière parfaitement individualisée, puis tu parles justement du sens propre d'un matériau. Enfin, en fait, toute ton affaire est autour de ça, au fond, du sens propre.
Oui,
d'un lieu.
Je suis appuyé sur les matériaux, c'est aussi parce que je me rends compte dans les architectes parlent très très peu des matériaux, ils parlent toujours des formes, oui, etc. Or, disons, une forme, elle va s'inscrire dans une matière, et voilà, et c'est, bon, je raconte des choses un peu, ce que je raconte, voilà, mais ça m'est venu, j'en parle pas trop, mais ça m'est venu, parce que petit, mon père était dans le bâtiment, entrepreneur, et il m'emmenait sur les chantiers, il était spécialisé dans le carrelage, et puis les fabricants de carrelage lui envoyaient des livres formidables. C'était des livres très lourds parce que c'était des catalogues et dedans il y avait des petits machins de céramique, etc. Et évidemment, mon père il les regardait et puis il me les donnait. Et c'était mes jouets, quoi. Et donc ça a dû déclencher une sensibilité aux matériaux. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça.
Je le raconte
dans le livre. Oui.
Alors si tu voilà. Sais pas ce que.
Non, mais là.
Peut-être des gens ont des questions. Je vais peut-être essayer de vous mettre en contradiction tous les deux, parce que j'ai beaucoup aimé La ville au loin, postfacée par Bailly, et je ne savais pas qu'on parlerait d'ivresse ce soir, mais j'avais l'impression que Jean-Luc Nancy était un peu dans un sentiment d'ivresse par rapport à Los Angeles. Et oui, dans ce livre-là, en fait, la dissolution de la ville physique aboutit sur l'idée que les lieux, ça n'a plus tellement lieu d'être. Or, on vient d'entendre un éloge des lieux.
Ah non, absolument pas. Là, je suis désolé, il n'y a aucun éloge des lieux. J'ai dit passant. Nous sommes des passants.
C'est-à-dire, passant des lieux.
Ah non, 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 non. Mon livre est un livre contre le lieu. Alors là, je suis mal exprimé.
Oui, après, mais tu dis local. Attends, local et lieu, c'est...
Ah non, je parle, je pas local, je dis le mystère de la tonalité locale. La tonalité locale, elle est répandue. Et la tonalité locale, où est-ce qu'elle est plus forte qu'à Los Angeles? Elle désigne absolument pas le lieu.
Oui, ah non. Mais c'est... oui maintenant, le... bon, non, mais là, vous avez raison. Vous avez raison, mais maintenant, Jean-Christophe est d'accord avec... D'ailleurs, s'il a publié La ville au loin, c'est que, quand même, je ne sais plus comment ça s'est dépassé. Mais enfin,
je sais pas, non, mais je me souviens même de la phrase, je m'en souviens par cœur, de la phrase de Jean-Luc, « La ville est le lieu où a lieu autre chose que le lieu. » C'est ça. Et dans la poste, c'est dit, Jean-Luc n'en s'est signé. Et il y a des villes qui se crispent comme ça sur un état des lieux certifié, historique, avec de la présence, des panneaux qui annoncent la présence, etc. Et puis il y a des villes qui évaporent le lieu comme ça. Et Los Angeles, et c'est ce que j'avais compris dans le livre de Jean-Luc, est une espèce d'énergie qui va dans ce sens-là. Mais là, c'est pas jouer l'un contre l'autre. Ça n'a pas de sens de dresser Sienne contre Los Angeles ou réciproquement. C'est de voir que partout... Mais justement, on prend une espèce de contraire.
Oui, mais je dois dire que... quand même, avec Los Angeles, j'ai eu de plus en plus conscience avec le temps qui passait que quand même, pour moi, Los Angeles, il y a eu, en effet, une sorte d'enchantement et de... une sorte de légère ivresse, et qui tenait quand même peut-être à deux conditions. La première, c'est que je n'habitais pas Los Angeles. Je n'habitais pas loin, à San Diego, mais... Et de San Diego à Los Angeles, d'ailleurs, c'est une espèce de grande conurbation, comme ils disent. J'essaie de ne pas le prononcer en anglais. Mais dans Los Angeles, c'est vrai qu'il y a à la fois une unité, je dirais presque qu'elle ne vient peut-être que du nom, Los Angeles, on sait qu'on est à Los Angeles, et qu'on est entre quelques... il y a quelques directions mythiques, il y a Hollywood d'un côté, il y a la mer, et puis derrière il y a le désert aussi, ça compte beaucoup. Donc ça fait, d'une part. Deuxième condition, c'est que j'avais une voiture. On va dire, tout le monde n'a pas une voiture à Los Angeles. Beaucoup, bien sûr, mais il y a quand même des bus. Et dans Los Angeles, il m'est arrivé plusieurs fois de me dire que je ne serais quand même pas très bien si je devais prendre le bus. Parce que je voyais des gens s'entasser, attendre le bus. Donc, j'ai une petite hésitation sur le point de savoir si Los Angeles est tellement conforme, si je peux dire, à ce que j'ai écrit pour les pauvres. Maintenant, on va dire aucune ville n'est bien pour les pauvres. Mais je ne dis même pas forcément les très pauvres. C'est vrai d'ailleurs que dans Los Angeles, et en fait, j'en parle beaucoup dans le texte, quand on sort aussi du grand système d'autoroute qui est admirablement fait pour que voilà, on puisse se déplacer avec une sorte de légèreté extraordinaire d'un bout à l'autre de la ville, mais il y a quand même, en particulier... qui eux sont un peu écartés de ça. Et là, il y a quand même une forme de banlieue, mais de banlieue qui est en même temps enclavée dans la ville. Mais là, c'est un peu différent, parce que quand on se promène dans Watts, d'abord tout d'un coup tout le monde est noir. Puis tout d'un coup, il y a des chiens crevés sur le trottoir. Maintenant, je dois dire, dans un autre sens, c'est vrai que dans Los Angeles, il y a aussi beaucoup de choses, d'éléments qui, paradoxalement, je crois, très inintentionnels, en plein, je ne dis pas dans le centre, puisqu'on n'a pas de centre, ce qui s'appelle centre, downtown, Ça, c'est un quartier de gratte-ciel, de bureaux d'administration. Mais le fait qu'il y ait des magasins d'occasion de seconde et sœur, comment est-ce qu'on dit, handshop, à côté, mais vraiment à côté d'hôtels de luxe, quoi, bon, ça c'est, évidemment, ça fait quelque chose, il se passe quelque chose. Et il y a aussi beaucoup de maisons avec des fustiles tout petits, petits jardins.
Mais là, il y a
parce que toute la ligne aussi est très basse, pour dire. Ouais. Ça aussi, c'est très, très important.
Sur la question des parcours des pauvres à la ville, il y a, je le cite quand même, ce proverbe chinois très célèbre, hein, très ancien aussi, les façades appartiennent à ceux qui les regardent. Hein, et je crois qu'il y a quelque chose de profondément juste là-dedans. Et simplement, il y a des tant que dans une ville, disons, l'accessibilité de la ville telle qu'elle est, est entière, intégrale, tant que les circulations sont possibles partout et dans tous les sens, ça ne veut pas dire que la question de la pauvreté est résolue, mais au moins quelque chose est maintenu, qui a tendance justement à disparaître, particulièrement avec un phénomène d'ailleurs américain lui aussi, qui est ce qu'on appelle les gated communities, et qui se répand en France, je vous le signale, dans des zones résidentielles pour le moment, mais c'est-à-dire que des parties entières de l'espace public deviennent privées. Non seulement les maisons et les terrains, mais le réseau vierge qui les relie. Et là, il y a véritablement quelque chose de terriblement alarmant. Ça veut dire que ça devient impénétrable. Et donc, comment fabriquer quoi que ce soit de politique ou de social avec cela. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes qui est en ce moment. Et justement, dans le livre, je cite les mémoires d'un torero. Son nom m'échappe à la minute, alors que je le connais par cœur. C'est un livre magnifique. C'est pas lui qui l'a écrit, il s'appelle Manuel Nogales, hein, Matador de Toros, qui raconte la vie de ce grand, oui, très grand vécu. Je le cite, je le nomme, c'est un bon. Mais cet homme qui était peu importe ce qu'on pense de la corrida, mais lui c'était un type épatant, et il était ultra pauvre. Il habitait l'autre côté de la rivière, le quartier de Triana, le quartier pauvre de Séville, et il raconte comment gamin, à 8 ans, 10 ans, en loque, hein. D'abord il traversait la rivière pour aller torer des taureaux sauvages, tout ça, c'est un livre assez étonnant. Mais comment la ville était lui appartenant. Et non seulement ça, mais il enchaîne en disant, partout où je suis allé après, toujours, la première chose que j'ai fait avant d'aller à la corrida, avant d'aller m'entraîner, je ne sais pas, c'est pas exactement le sport, c'est un peu différent, mais j'ai toujours tenu à me promener des heures et des heures et des heures dans les villes où j'allais, parce que, et partout j'ai retrouvé ce que j'ai trouvé enfant à Séville. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et ça veut dire que j'y tiens aussi, c'est-à-dire la figure du flâneur, c'est pas du tout une figure aristocratique, c'est pas que Baudelaire et ses lecteurs. Hein. C'est aussi ce jeune garçon, futur torero, ou ce jeune garçon, futur rien du tout. Voilà.
Merci. Soirée maintenant. Si on vous garde encore un petit moment, comme ça, si vous voulez peut-être discuter en privé avec Jean-Luc Nancy.
Je vais lui demander sur la dérive si tu veux. Attends.
Mais j'ai refusé de venir. Ah, d'accord. La revue 167, oui, pour moi, je...
interprétation sociologisante de l'avant-garde.
J'avais toujours des amis,
En
mai 68 à Paris, moi j'étais étudiant à Nanterre, le situationnisme n'existait pas. Ici, il a existé
deux ans avant, en 66.
Oui, mais le coup de deux ans avant, quand on voit ce qu'ils aient passé dans le centre de Strasbourg, il n'y a pas de quoi être fier. Deux ans avant, quoi, ils ont fait une surboom en gros. C'est à peu près ce qu'ils ont fait.
Là, c'est exagéré.
Oui. Exagéré dans les deux sens.
Le conseil étudiant, c'est toujours, il vient quand même de là.
Oui, mais la politisation de toute la jeunesse française, elle n'est pas valable de la brochure, comme on le dit parfois.
Non, mais la forme,
il y avait la guerre du Vietnam, il y avait des luttes morales, il y avait des luttes ouvrières.
Il y avait l'expo de bord,
ça va beaucoup. Oh là là, j'ai pas été.
Il y a le catalogue, il est vachement bien.
Sûrement,
le catalogue est super. Il y a le catalogue là.
De bord, ouais.
Moi, j'ai regardé le catalogue, il est vraiment bien.
Non, non, mais sûrement, ça vaut le coup.
Non, ça vaut le coup.
Bien sûr.
Ouais. Ouais.